Bien, le 21 janvier 2020, 5 touristes français, également un guide québécois qui les accompagnait, sombrent avec leur motoneige dans les eaux de la Grande Décharge à Alma, dans le lac Saint-Jean. La glace avait cédé sous le poids de leur machine alors qu'ils étaient dans un secteur qui était hors piste, qui était désigné dangereux. Moi, je connais très bien ce secteur-là parce que un chalet pas loin, puis c'est arrivé presque en face de chez moi. Et donc, c'est un endroit où les gens du secteur savent qu'il ne faut pas aller parce que c'était dangereux. Et donc, bon, il semble que les touristes français s'étaient aventurés dans ce secteur-là pour faire une espèce de raccourci. Ils étaient tombés dans l'eau. Eh bien, à compter du 1er janvier prochain, les guides et les locataires de motoneige vont devoir suivre une formation obligatoire pour pouvoir sillonner les sentiers de motoneige du Québec. C'est une nouvelle réglementation qui vient d'être adoptée. Caroline Proux est la ministre du Tourisme, députée de Berthier. Bonjour, Madame Proux.
Bonjour, Monsieur Lacroix.
Alors, vous avez réagi finalement assez rapidement à cet accident-là. Dès le départ, vous aviez dit qu'il fallait légiférer pour essayer de mieux former les guides qui accompagnent les touristes et aussi les touristes. Alors, qu'est-ce qui va se passer à compter du 1er janvier?
En fait, initialement, on avait convenu avec une belle rencontre avec l'Olympienne Sylvie Bernier, que tous les Québécois connaissent, où Sylvie m'avait fait part de son intention de m'interpeller sur l'encadrement, la certification pour tout le tourisme nature-aventure.
Ouais.
Et Sylvie et moi, on avait eu une super belle conversation. Et donc, on avait convenu au ministère et moi d'avoir l'obligation pour tout le tourisme nature et aventure. Ça comprend, entre autres, la motoneige, d'avoir une certification de Aventure Écotourisme Québec. Certification avec des critères hyper serrés. Si les entreprises touristiques de nature et d'aventure n'ont pas cette certification-là, M. Lacroix, il aurait cogné à la porte du ministère du Tourisme et n'aurait pas eu de subvention. Donc ça, c'était la première étape.
Ouais.
On faisait une annonce et la veille, c'était cet accident horrible qui a frappé le Québec. J'ai levé le téléphone, j'ai appelé mon confrère, le ministre des Transports, M. Bonnardel, qui allait rouvrir la loi sur les véhicules hors route, et j'ai dit à François, il faut absolument avoir une formation obligatoire pour les guides et pour les touristes. Cette oui. nouvelle réglementation-là va rentrer effectivement en place à partir du 1er janvier. Ça okay. change pas mal tout, là, M. Lacroix. Là. La formation va passer de 14 à 17 heures. Vous parliez du plan d'eau, là. Donc, il va y avoir une gestion des risques, il va y avoir de la prévention, du secourisme en région éloignée et en région sauvage. L'accent, c'est important, là, l'accent va être également sur les déplacements en plan d'eau pour les guides
oui.
et également une formation pour la recherche de clients égarés. Donc, on vient répondre avec ce règlement-là vraiment à l'accident horrible qui a coûté la vie à des touristes français et aux guides québécois bon. En janvier 2020.
OK. Donc, pour être clair, à partir du 1er janvier, si un touriste français, mettons, parce qu'on parle souvent des touristes français qui viennent louer des motoneiges chez nous, puis bon, on parle bien sûr des accidents qui surviennent dans des cours d'eau. Celui-là est épouvantable, là. Mais il y a aussi des collisions, par exemple, avec des arbres, etc. Les touristes qui vont vouloir louer une motoneige vont devoir suivre une formation aussi, là.
C'est les deux. Alors, tant pour les guides que pour les touristes, il y aura des formations qui sont obligatoires. Du côté des touristes avec les entreprises locataires de motoneige,
ouais.
par exemple, c'est le ministère des Transports du Québec, mon collègue François Bonnabel, qui s'en charge. Maintenant, toute la révision de la formation des guides a été faite du côté du ministère du Tourisme. Donc, c'est conjoint, M. Lacroix. C'est tant les guides que les touristes qui auront des formations obligatoires ouais. pour opérer, par exemple, une motoneige.
Mais combien de temps est-ce qu'un touriste français, par exemple, qui va se présenter, qui va vouloir louer une motoneige chez un locataire de motoneige, combien de minutes ou d'heures va durer cette formation-là avant qu'il puisse prendre le guidon?
Ça va être déterminé par le ministère des Transports, mais partez du principe là, que souvent, là, on donnait la clé, le bracelet de sécurité à mettre au poignet. Et c'était pas mal ça, la formation.
Ça, c'est l'accélérateur, ça, c'est le frein. Merci, bonsoir.
Alors qu'on sait qu'une motoneige, il y a 30 000 km de sentiers balisés au Québec, donc c'est vraiment d'encadrer ces touristes-là en leur disant de ne jamais sortir des sentiers. Puis préférablement, lorsqu'on est un touriste étranger, en plus de la formation du locataire, embauchez-vous un guide. Embauchez-vous un guide qui va vous permettre d'avoir une expérience mémorable au Québec, ouais. avec les sentiers de motoneige parmi les plus spectaculaires au monde. Là.
Bon, ce qu'on avait compris de l'événement qui est survenu à Alma, c'est que les touristes avaient pas respecté les consignes puis étaient sortis du sentier. Ce qu'on comprend également, c'est que le guide avait essayé de les rattraper puis lui aussi avait enfilé derrière eux dans le trou qui avait été créé par le poids de leur motoneige. Les guides vont devoir subir une formation qui va durer combien de temps?
17 heures. Donc, on parle vraiment de 14 à 17 heures. Et cette formation-là, il y a eu, pour rédiger la formation, M. Lagroix, des partenaires hyper importants, la Fédération des clubs motoneigistes, évidemment, du Québec, la Fédération des clubs quad du Québec, Aventure Écotourisme Québec, et évidemment, le Conseil québécois en ressources humaines en tourisme. Mais tous ces gens-là se sont assis à la table pour donc avoir cette formation-là obligatoire qui passe de 14 à 17 heures, gestion du risque, prévention, secourisme en région éloignée et en région sauvage. On comprend que faire de la motoneige sous les pylônes électriques à Laval, c'est une chose.
Ouais.
Mais lorsqu'on s'aventure, par exemple, dans les Chic-Chocs, dans les Monts-Valins, c'est pas les mêmes conditions dans lesquelles les gens vont opérer leurs machines. Donc, vraiment une formation qui a été augmentée, recherche de clients égarés. Mais je pense que l'accent aussi sur les déplacements des plans d'eau, c'est une valeur ajoutée extrêmement importante à la formation qui va être dispensée par les guides et pour les guides.
OK. Là, on parle beaucoup des motoneiges, évidemment, parce que cet événement-là est dramatique et tout ça. Mais les VTT aussi, c'est-à-dire les quads, puis ils vont aussi être visés par une réglementation semblable. Hein?
Oui, parce qu'ils tombent sous la loi des véhicules hors route qui appartient à M. Bonnardel. Il y a des fameux aussi side by side, là, comme on dit en français, les côte à côte. Vous avez raison de mentionner les quads également. Donc, tout ce qui tombe sous la loi des véhicules hors route, l'obligation d'avoir cette formation-là est également obligatoire, donc pour les côte à côte et les quatre roues.
J'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre certification aventure écotourisme, parce que là, on parle bien sûr des déplacements en VTT, mais il y a d'autres types d'aventures écotouristes au Québec. Puis, souvent, il peut y avoir aussi des accidents, parce que c'est des activités qui sont physiques, et peut-être un petit peu plus à risque. Alors, pour minimiser le risque, vous allez introduire cette nouvelle certification-là. Qu'est-ce que c'est au juste? Et à qui ça s'adresse?
Bien, ça s'adresse à tous ceux qui offrent du tourisme nature-aventure. Donc, ça peut être, par exemple, du kayak de mer avec un guide. Ça pourrait être du traîneau à chien, parce que vous avez un guide qui est là. Donc, toutes les entreprises touristiques qui offrent du tourisme nature-aventure, on les invite. Il y en a près de 288 entreprises au Québec qui sont soit certifiés ou sur le point d'être certifiés par Aventure Écotourisme Québec. C'est des critères, vous comprendrez que les critères varient si on est sur du kayak de mer, du traîneau de chien ou de la motoneige. Vous comprenez que là, les critères sont différents. C'est une grille extrêmement serrée où l'évaluation, l'accompagnement est fait par Aventure Écotourisme Québec. Et lorsqu'ils ont cette certification-là, ils peuvent être financés par le ministère du Tourisme. Mais ces entreprises-là, elles vont s'afficher à l'international lors de la réouverture des frontières. C'est important qu'elles disent haut et fort qu'elles sont accréditées qualité sécurité Québec. Moi, j'invite toutes les entreprises qui ne sont pas encore certifiées, non seulement à le faire pour venir chercher du financement chez nous au ministère du Tourisme, mais également pour s'afficher à l'international en disant que le Québec, dans la pratique de ces activités-là, bien, c'est sécuritaire.
Non, parce que l'événement qui est survenu à Alma n'a pas dû nous donner une très belle image auprès de l'industrie touristique française, hein?
Bien, ça a été difficile, évidemment. Lorsqu'on a un accident de cette ampleur-là, c'est sûr que c'est important de continuer d'opérer nos ministères du tourisme en invitant toutes ces entreprises-là, M. Lacroix, à avoir la certification. C'est hyper important pour les guides et pour les touristes. Moi, je suis vraiment fier. Puis je remercie François Bonnardel de toute sa collaboration parce que ça s'est fait en quelques heures. M. Bonnardel m'a dit en quelques heures, oui, Caro, dans la réouverture de la loi sur les véhicules en route, oui, on va mettre une nouvelle catégorie, une formation obligatoire pour les guides et les touristes.
Okay.
Alors, des accidents comme ceux-là, on ne souhaite plus qu'ils arrivent, puis la formation, vraiment, c'est un élément central pour afficher le Québec comme destination sécuritaire.
Deux sujets rapides, Madame la ministre. Hier, on avait sur nos ondes, en fait, on parlait avec les gens de la CITQ qui disent, eux autres, là, enlever la fameuse classification des étoiles dans l'hébergement, on n'est pas d'accord avec ça, parce que eux, ils pensent que ça va nuire à l'industrie, que les gens se fient beaucoup à ça, et que donc, d'enlever le système d'étoiles qui est chapeauté par l'État, c'est pas une bonne idée. Et vous voulez faire ça dans votre projet de loi 100 qui va être à l'étude là au cours des prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Ben, je leur réponds qu'ils sont bienvenus évidemment en consultation particulière à déposer leur mémoire. Ce que je peux leur dire aussi, c'est que dans les 10 dernières années, M. Lacroix, c'est moins de 4% des établissements d'hébergement touristique qui sont passés au-delà de 3 étoiles, donc qui ont changé de catégorie. Nous, on pense que c'est pas au gouvernement du Québec, à travers une grille qui veut dire, ben, t'as 3 étoiles si t'as une commode avec 3 tiroirs. Présentement, des murs de béton sont dévalorisés dans la grille qui est présentement en place, alors que certains hôtels décident de passer au béton, d'enlever, par exemple, des tapis. On croit vraiment que c'est pas le rôle de l'État d'avoir ce système de classification-là. Et on serait très heureux de les entendre à la commission parlementaire à partir du 24 août prochain.
Mais eux autres, ils disent que c'est important parce que les clients se fient à ça. Alors, est-ce qu'ils pourraient garder? Est-ce qu'ils pourraient... êtes-vous contre le fait qu'on affiche une classification de genre-là s'ils décident de dire, ben OK, mais nous autres, on va le garder, on va s'en faire une
classification? S'ils veulent le faire de façon privée, de s'organiser entre eux, moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Je veux juste vous rappeler qu'au Canada, le Québec et en Amérique du Nord est la seule province qui a un système de classification de l'hébergement touristique qui est étatique. Alors, dans l'idée aussi de simplifier la vie de nos entreprises touristiques, de l'allègement administratif, je pense que le projet de loi 100 va faire plaisir à de nombreux établissements d'hébergement touristique.
Et dernière question, Mme Proulx, vous en êtes où avec vos concerts tests que vous avez annoncés il y a 2 semaines? Parce qu'il y a 2 semaines, on n'avait pas de promoteurs là, qui s'étaient avancés. Les gens avaient reçu les documents. Vous allez voir regarder ça. Est-ce que vous avez reçu des offres? Est-ce qu'on en sait plus là, sur ce qu'on va présenter lors de ces 2 concerts, un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur?
Donc, l'appel d'offres va se terminer le 13 août prochain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le ministère reçoit et a reçu des propositions de promoteurs, tant pour le concert extérieur que le concert intérieur. Le processus est en cours. Maintenant, dans les prochaines semaines, on pourra annoncer le protocole, le ou les promoteurs qui ont relevé la main et qui auront eu l'autorisation du ministère du Tourisme. Et après ça, tout le processus de participation des festivaliers, tant en extérieur qu'en intérieur, va être communiqué également à ce moment-là. Donc, dans les prochaines semaines.
Parce que là, on voit de plus en plus de cas, là, notamment, on comprend le cas de l'Estrie et puis surtout de Trois-Rivières. Est-ce que vous pourriez dire, on va imposer le passeport vaccinal pour voir comment on est capable de faire une espèce de test pour voir si ça peut fonctionner, le passeport vaccinal?
Exactement. Donc, dans la rédaction du protocole qui est fait pour l'Université Laval, important de le dire, il y a 2 étapes importantes qui doivent être traversées par la suite, à la fin de la rédaction du protocole. Un, c'est que le comité d'éthique autorise le protocole et ensuite la direction de la santé publique autorise donc le protocole, la rédaction, le cadre dans lequel pourraient se tenir ces 2 événements-là. Donc, on attend ces étapes-là et dès qu'on les aura, on pourra les communiquer avec vous, M. Lacroix.
Madame Proulx, merci d'avoir été avec nous.
Toujours un plaisir.
Au revoir, Caroline Proulx, la ministre du Tourisme.